Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons des élections législatives et municipales au Cameroun. C'est la fin d'un suspense, puisqu'après plus d'un an de retard et après deux reports, ces élections se tiendront finalement le 9 février. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. D'abord, les conditions sont-elles réunies pour des élections apaisées? D'autant que la réélection l'année dernière de Paul Biya a déclenché, vous le savez, une crise politique. Quid de la participation dans les régions anglophones où la situation sécuritaire reste encore très tendu, et quelle sera également la stratégie de l'opposition? Certains partis menacent de boycotter si le code électoral n'est pas révisé. Alors vous qui nous écoutez au Cameroun, dites-nous ce que vous inspire ce climat de pré-campagne, vos réactions au 33 9 693 693 70. Malheureusement, je ne pourrai pas lire vos messages, vos commentaires postés sur Facebook. Pour tout vous dire, j'ai un problème de connexion. Impossible d'accéder à la page d'appel sur l'actualité. Je vois certes ma photo, mais c'est tout. Rien n'apparaît. En revanche, vous pouvez évidemment continuer à poster vos commentaires sur le compte WhatsApp de l'émission. Je vous redonne le numéro, le 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous interactif avec la rédaction de RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va s'intéresser d'abord à Ali Meshou. Son nom vous dit certainement quelque chose, on en a parlé ces derniers jours. C'est le chef djihadiste tué par les forces françaises au Sahel. Bonjour Herman.
Bonjour Juan Gomez.
Vous nous appelez de Koudougou au Burkina Faso. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Exactement. La ministre française des armées, Florence Parly, a annoncé la mort d'Abou Abderrahmane Al-Maghribi,
oui.
Un des dirigeants du GCM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Quel rôle jouait-il au sein du GCM? Sa mort représente-t-elle une perte importante pour ce groupe?
Alors, Abou Abderrahmane Al-Maghribi, alias Ali Meshou, présenté par Florence Parly comme le deuxième terroriste le plus recherché au Sahel, y compris par les Américains, a-t-elle dit. On va y revenir évidemment avec Gaël Lalex du service Afrique de RFI. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Avant de répondre aux questions d'Herman, un mot tout de même sur le parcours d'Ali Meshou.
Eh bien, c'était un étudiant marocain, avec nous son nom, Al-Maghribi, et qui a décidé de rejoindre Gao en 2012, alors que le Mali est en pleine tourmente. Il intègre ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il était étudiant en théologie, ce qui le fait repérer très vite. Et c'est suite à la mort du précédent chef religieux du GSIM, lors d'une frappe française l'année dernière, qu'il connaît une ascension assez rapide.
Alors concrètement, en quoi consistait le rôle du chef religieux au sein de ce groupe terroriste?
Alors il faut bien comprendre que dans l'organigramme des groupes terroristes, les rôles de chacun sont très clairs et les fonctions des uns n'empiètent pas sur celles des autres. Donc Ali Meshou avait un rôle purement religieux. C'est-à-dire qu'il était consulté par les grands patrons du GSIM afin de déclarer, par exemple, si telle action, telle attaque, telle réprimande est conforme au texte religieux. Son rôle est purement théologique et Ali Meshou n'a aucune responsabilité opérationnelle. Il ne recrute pas, il ne planifie pas les attaques et il ne détermine pas la stratégie de combat du groupe terroriste.
Herman nous demandait si sa disparition représentait finalement une lourde perte.
Alors, d'un point de vue symbolique, oui, évidemment, puisque c'était un leader religieux, ça a sans doute mis un petit coup au moral aux troupes, mais en réalité, ça s'arrête là. La ministre a évoqué la stratégie française de désorganiser les groupes terroristes en profondeur. Soyons clairs, ce n'est pas avec la mort d'Ali Meshou que la France va y arriver. Il n'avait pas de rôle opérationnel, ce n'était pas un combattant. C'était une pièce rapportée venue du Maroc qui a rejoint ACMI tardivement et il n'était pas issu d'une grande famille de la région.
Ouais. Vous dites qu'il n'avait pas un rôle opérationnel, pourtant Florence Parly a annoncé que la France avait tué le deuxième terroriste le plus recherché du Sahel.
Là, c'est clairement faux. Ali Maïchou n'était même pas le numéro 2 du GSIM. Et dans le Sahel, il y a bien d'autres personnalités dont on parle tous les jours à l'antenne, nettement plus importantes, à commencer par Yada Grali, le patron du GSIM, Abou Walid al-Sarawi, le numéro 1 de l'État islamique dans le Grand Sahara, Jafar Diko, le leader d'Ansarul Islam au Burkina, ou encore Amadou Koufa, ce prédicateur du centre du Mali qui a fondé la Katiba Massina et que les Français avaient déclaré mort l'année dernière à tort.
Effectivement. Herman, vous avez une autre question.
Oui, Juan. Pourquoi Florence Parly annonce dès sa mort maintenant, un mois après l'opération?
Ah, Gaëlle Lalex.
Alors certains diront par prudence. Finalement, comme je viens de l'évoquer, la ministre s'était un peu empressée d'annoncer la mort d'Amadou Koufa, c'était en novembre dernier, pour que le prédicateur réapparaisse dans une vidéo quelques mois plus tard. Ça fait évidemment toujours un petit peu désordre. Mais surtout, Florence Parly l'a annoncé au retour d'une tournée dans le Sahel, dans l'avion, alors que depuis deux mois, les armées nigériennes, maliennes ou burkinabées sont victimes d'attaques de mieux en mieux organisées, de plus en plus meurtrières. La dernière en date, c'est la tragédie d'Indélimane dans le nord du Mali il y a 10 jours, qui a fait quand même une cinquantaine de morts. Quelques jours avant, c'est un soldat de Barkhane qui a été tué au Mali. Donc l'opération française est de plus en plus critiquée par les populations sahéliennes. Il y a le spectre d'une alliance avec les Russes qui plane depuis quelques semaines. Donc la France avait vraiment besoin d'afficher quelques réussites.
Herman, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, c'est très satisfait.
Eh bien, on remercie évidemment Gaël Lalex du service Afrique de RFI. Bonne journée à Koudougou, Herman. Merci de nous écouter. Koudougou, où il est exactement 8h17. 33 9 693 693 70. D'autres questions, évidemment, à la rédaction de RFI. Abdoul nous a contacté de Conakry. Bonjour, Abdoul.
Bonjour, Anne. Bonjour à tous les auditeurs à du monde.
Alors, quelles sont vos questions, Abdoul?
La dernière semaine, a débuté à Lyon le procès d'un réseau de prostitution.
Oula, il y a des micro-coupures, Abdoul. Peut-être déplacez-vous. On est en direct, c'est comme ça. Déplacez-vous, sortez. Allez, une deuxième tentative avec Abdoul. Sinon, je me fais votre porte-parole. Voilà, pas d'inquiétude. Vous nous disiez que la semaine dernière.
Oui, la dernière semaine a été démantelée à Lyon. Le procès a été débuté à Lyon. Le procès d'un réseau de prostitution très organisé de femmes nigériennes. Donc, à ce sujet, j'ai deux questions. La première question est de savoir quelle a été la stratégie mise en œuvre par ces réseaux pour faire partir ces jeunes filles en France.
Ah, alors on va vous répondre avec Pierre-Olivier qui suit pour RFI ce procès. Pierre-Olivier qui était la semaine dernière à Lyon, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Abdoul.
Merci de nous rejoindre du Nigeria au trottoir de Lyon. On va essayer d'expliquer le mode opératoire de ce vaste réseau de prostitution. Peut-être d'abord rappelez-nous l'ampleur de ce réseau qui a été démantelé.
Oui, alors il faut savoir que 23 personnes, des hommes et des femmes, ont été interpellées. Ça se passait en 2017. Elles comparaissent devant le tribunal correctionnel. Toutes sont soupçonnées d'avoir fait venir en France, justement, puis d'avoir exploité des dizaines de jeunes nigérianes. Alors, la moitié de ces prévenus sont libres, et libres plutôt, sous contrôle judiciaire, et l'autre moitié est en détention provisoire. Certains comparaissent donc dans un box vitré, escortés par des policiers. Et puis sachez que tous les prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison, notamment pour proxénétisme aggravé, blanchiment d'argent ou encore traite d'êtres humains en bande organisée.
Ouais, et c'est aussi le procès de l'une des femmes les plus recherchées d'Europe.
Oui, absolument. Alors elle s'appelle Jessica Edozomwane, elle a 26 ans, elle est nigériane. C'est la femme la plus recherchée par Interpol en Europe et elle est soupçonnée d'avoir blanchi des centaines de milliers d'euros qui venaient de la prostitution de ce réseau.
Alors pour répondre précisément à Abdoul, expliquez-nous comment cette traite d'êtres humains était organisée entre le Nigeria et la France.
Alors les anciennes prostituées décrivent toutes les mêmes techniques de recrutement. Cela commence au sud de la ville de Benin City, au Nigeria, une province extrêmement touchée par le chômage, avec donc très peu de débouchés professionnels. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont approchées sur place par un membre du réseau qui leur propose de venir travailler en France et même de leur avancer l'argent du voyage.
Et à ce moment-là, elles savent ce qu'elles vont devoir faire une fois en France ou pas?
Alors justement, certaines acceptent en sachant pertinemment ce qu'elles devront faire, c'est-à-dire se prostituer. Difficile de dire si c'est la majorité d'entre elles. D'autres le découvrent en arrivant en France et elles pensaient venir en Europe pour être serveuses, coiffeuses ou encore vendeuses dans des magasins. C'est pas tout à fait la même chose.
Et les parents de ces jeunes filles, ces jeunes femmes, acceptent de les laisser partir?
Alors là encore, certains d'entre eux vendent quasiment leurs filles à ce réseau, puisqu'on leur fait miroiter qu'ils toucheront un peu d'argent qui viendra de la prostitution de leurs filles, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Et puis d'autres ne se doutent pas que leur fille devra se prostituer et pensent donc que ce voyage, cette proposition peut être un bon moyen pour avoir une meilleure vie.
Ouais. Et puis il y a un point très important, c'est qu'avant le départ, ces jeunes filles doivent passer un rite.
Ah oui, alors c'est un rituel vaudou qui s'appelle le juju, car pour s'assurer l'obéissance de ces jeunes filles et être sûr qu'elles ne s'enfuiront pas une fois en France et qu'elles rembourseront bien leurs dettes, le réseau fait appel à une sorte de sorcier. Il va alors passer par ce rituel où il coupe des cheveux, des poils pubiens ou encore des ongles de ces jeunes filles et il les conserve dans une petite boîte au Nigeria. Et lors de ce rituel, qui est une croyance locale très très respectée et crainte, on explique à ces jeunes filles que si elles n'obéissent pas, le juju fera s'abattre sur elles et leur famille de grands malheurs. C'est donc un moyen de pression qui semble être redouté par ces jeunes Nigérians.
Oui, et puisqu'on détaille justement le modus operandi de ce vaste réseau de prostitution, ensuite, ce sont les réseaux de passeurs qui prennent le relais.
Oui, juste le temps du voyage. Le réseau de prostitution délègue en quelque sorte à un autre réseau de passeurs cette fois. Les jeunes filles racontent l'horreur des camps de réfugiés en Libye, puis l'angoisse de la traversée de la Méditerranée, et enfin l'inquiétude d'arriver en Italie et d'être de nouveau prise en charge par le réseau de prostitution qui les emmène en voiture jusqu'en France, et notamment à Lyon, où les chefs présumés du réseau étaient implantés.
Et une fois en France, ces femmes se cachent de la police, évidemment.
Mais oui, car elles n'ont pas de papier, bien sûr. Le réseau s'occupe de leur louer des appartements, à des prix souvent excessifs d'ailleurs, et les oblige également à louer des camionnettes pour se prostituer. Et c'est là qu'elles prennent conscience de la somme qu'elles vont devoir rembourser en vendant leur corps, une somme bien plus importante que ce que le voyage avait vraiment coûté. En moyenne, ces jeunes filles doivent rembourser 30 000 euros et impossible d'aller voir la police ou d'essayer de fuir puisque, je vous le rappelle, elles sont sous la menace du juju.
Ouais, ce fameux rite, effectivement. Abdoul, vous avez une autre question, une dernière, il me semble.
Oui, la deuxième est de savoir comment ce réseau a été-t-il démantelé. Est-ce que le fruit de la coopération franco-nigériane?
Alors, Pierre-Olivier.
Alors, l'enquête a démarré en 2016. Elle a mobilisé, en France, elle a mobilisé plusieurs services de police pendant 15 mois. C'est beaucoup dans ce genre d'affaires. À l'origine, c'est un témoignage dont on ne connaît pas l'auteur qui a mis les policiers sur la voie en leur parlant de l'éventuelle tête du réseau. Les enquêteurs ont ensuite, comme on dit, déroulé la pelote et après des milliers d'écoutes téléphoniques et des dizaines de filatures, ils ont reconstitué l'organigramme du réseau et ont pu faire des liens entre les différents protagonistes de ce réseau. Enfin, Abdoul, il n'y a pas eu de collaboration entre la France et le Nigeria, faute de coopération bilatérale, et certains membres du réseau restés au Nigeria n'ont pas été extradés vers la France, qu'il avait pourtant demandé pour qu'ils y soient jugés.
Allez, fin du procès dans...
Le délibéré n'a pas été encore rendu, oui. On le saura à la fin de cette semaine.
À la fin de cette semaine, et vous serez là, évidemment, Pierre-Olivier, pour nous détailler le verdict du tribunal. Abdoul, bonne journée à Conakry, merci infiniment de nous avoir appelés, à bientôt Pierre-Olivier.
À bientôt.
9h23 à Paris, n'oubliez pas dans un quart d'heure maintenant vos réactions, vos analyses sur les élections législatives et municipales au Cameroun, puisque les Camerounais connaissent enfin la date de ces élections, ce sera le 9 février. Avec toutes les questions que ça soulève, déjà sur la possibilité d'organiser ces scrutins en zone anglophone, la stratégie des différents partis de l'opposition, certains menacent de boycotter si le code électoral n'est pas révisé, et puis le climat général, climat tout de même tendu depuis la réélection il y a un an de Paul Biya. On en parle tous ensemble, 33 9 693 693 70. Autre question, elle nous vient de Moroni, aux Comores. Bonjour Mohamed.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Vous avez des questions après avoir entendu sur notre antenne un reportage du correspondant de RFI en Corée du Sud, Frédéric Ojardias.
Oui. En fait, j'ai appris par RFI que la Corée du Sud souhaite développer la technologie automobile à base d'hydrogène.
Oui.
3000 véhicules d'hydrogène circulent aujourd'hui en Corée du Sud. Donc, je veux savoir quel est l'impact écologique des véhicules à hydrogène et comment expliquer le coût élevé de ces véhicules.
Ah, le coût élevé, effectivement. Moi-même, j'ai entendu ce reportage de Frédéric Ojardias. Il interrogeait quelques particuliers et l'un d'entre eux a dû débourser 80 000 $. 80 000 $, rendez-vous compte, pour acheter une voiture à hydrogène. Bonjour Luc Bodineau.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur du programme Hydrogène à l'ADEME, l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors c'est vrai que la Corée du Sud est régulièrement confrontée à des pics de pollution. Elle mise désormais donc sur l'hydrogène pour remplacer les voitures à essence. On dit même que l'hydrogène serait l'avenir de la voiture électrique. Une voiture hydrogène, c'est quoi ? C'est une voiture qui ne pollue pas du tout ?
Alors, une voiture hydrogène, c'est avant tout une voiture électrique, en fait, donc qui est mue par un moteur électrique. Et à la différence des véhicules électriques que l'on connaît, qui sont équipés de batteries, donc qui fournissent l'électricité au moteur, dans un véhicule hydrogène, l'électricité est refabriquée, donc à partir d'un combustible, l'hydrogène, qui se trouve comprimé dans un réservoir, un gaz, et qui passe au travers d'un système qui s'appelle une pile, qui permet de reproduire de l'électricité. L'hydrogène se recombine avec l'oxygène de l'air pour fabriquer de l'électricité, donc qui va alimenter le moteur électrique. Et puis, l'hydrogène se recompose avec l'oxygène pour fabriquer de l'eau. Et donc, au pot d'échappement, c'est de l'eau qui ressort.
Alors, tout ça est très technique, mais ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est qu'au final, ce qui sort du pot d'échappement, c'est de l'eau.
Alors, c'est de l'eau lors de la... Parce qu'on utilise le véhicule hydrogène. Si on souhaite avoir une idée de l'impact environnemental ou de l'empreinte environnementale de ce type de mobilité, et qu'on vient de regarder le bilan sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire de la fabrication du véhicule, la fabrication de l'hydrogène aussi, et de regarder l'ensemble de l'impact. Et en fait, on s'aperçoit, les études montrent que ce qui compte en premier lieu, c'est la manière dont est produit l'hydrogène, ce carburant, puisqu'il n'est pas, il se trouve pas ou peu de manière naturelle sous cette forme-là dans la nature. Donc il est fabriqué, il est produit. Et les études montrent que si l'hydrogène est produit à partir de gaz naturel, c'est la façon aujourd'hui dont il est fabriqué, bien se déplacer avec un véhicule hydrogène, c'est à peu près la même chose sur le plan du changement climatique, hein. C'est à peu près la même chose que se déplacer avec un véhicule diesel.
Oui, donc pour résumer, Luc Bodineau, rouler à l'hydrogène ne dégage pas de CO2, mais produire cet hydrogène consomme beaucoup d'énergie et donc pollue. Donc finalement, l'hydrogène, ce n'est pas la panacée. On voit de plus en plus de pays qui se précipitent et qui essayent de développer cette industrie. Au final, voiture électrique ou voiture hydrogène, c'est la même chose.
Alors ça dépend, parce qu'il y a d'autres façons aussi de produire de l'hydrogène. L'hydrogène peut être produit à partir d'électricité et puis d'eau. Et donc, si cette électricité est d'origine renouvelable, par exemple, d'origine éolienne ou photovoltaïque, alors là, le bilan sera bien meilleur. Et rouler à l'hydrogène à partir d'électricité renouvelable, on estime que c'est trois fois moins de CO2, de gaz à effet de serre, qu'un véhicule diesel.
Ah oui, tout de même.
Vous voyez ? Voilà.
Alors, il nous reste deux petites minutes. Luc Bodineau, un mot tout de même sur le coût. Frédéric Ojardias disait dans son reportage, enfin surtout les personnes qui l'interrogeaient, qu'il fallait débourser 70 000, 80 000 dollars. En France, il faut compter à peu près la même chose, 80 000 euros pour un véhicule hydrogène. Pourquoi est-ce si cher ?
Alors, c'est effectivement l'ordre de grandeur. Renault a récemment annoncé aussi la commercialisation de sa version hydrogène du Kangoo électrique à partir de 48 000 euros. Pourquoi ça coûte si cher ? Parce que aujourd'hui, on est sur des petites séries industrielles, en fait. Ces véhicules sont produits à quelques centaines ou milliers d'unités par an, à comparer aux véhicules thermiques qu'on connaît, qui sont fabriqués dans des usines qui en produisent plus de 100 000 unités par an. Donc les facteurs d'échelle sont pas du tout les mêmes. Et on attend vraiment dans les années à venir, là, sur les 5 ans, les 10 ans, une baisse drastique de ces coûts liée à un effet d'échelle. Vraiment lié à une industrialisation, à un effet volume, qui devrait permettre d'abaisser le coût de ces véhicules à l'achat.
Ouais. Pour résumer, Luc Bodineau, la voiture hydrogène, c'est la voiture de demain ?
Oui, ça peut être une des solutions. C'est pas la solution, c'est une des solutions. Il faut aussi changer les comportements, peut-être moins se déplacer. tout ne repose pas sur la technologie, bien sûr.
Ouais, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du programme hydrogène à l'ADEME, l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonne journée, Mohamed. Merci de nous écouter à Moroni. On marque une pause, on retrouve l'ensemble du service Afrique pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après pour parler des élections au Cameroun.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.